Barock.
Baroque.
Barocco.
Époque de contraste. Un podcast pour accompagner l'exposition éponyme au Musée national de Zurich. En compagnie d'experts choisis, nous éclairons quelques aspects de l'exposition. Vous êtes libre d'écouter les épisodes de ce podcast avant, pendant ou après votre visite de l'exposition au musée. Je m'appelle Florence Grivel et dans cet épisode, nous allons à la rencontre du roi soleil, Louis XIV, qui désire la puissance et la grandeur du royaume. Il va régner sur le milieu artistique pour qu'il soit à son service. C'est l'âge d'or des manufactures et des académies royales qui sont présentes dans tous les domaines, comme entre autres l'architecture, le textile, la céramique, la verrerie. Durant une époque pleine de crises et de guerres, Louis XIV développe la cour royale et pousse le luxe à l'extrême. Tous les regards sont alors tournés vers la France, qui devient un modèle, une inspiration pour l'Europe ainsi que pour la Suisse. Pour éclairer cette période, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Sarment, archiviste, historien, conservateur général du patrimoine à Paris, fin connaisseur du baroque et auteur de plusieurs écrits sur Louis XIV et son époque. Bonjour Thierry Sarment.
Bonjour.
Lorsqu'on évoque la figure de Louis XIV, on l'associe immédiatement à celle du roi soleil. Alors que si on s'intéresse de près à la construction de ce personnage qui devient roi à l'âge de 5 ans, faisant de lui le plus jeune roi de France, le jeune Louis possède une personnalité qui est assez éloignée du faste et du rayonnement qu'il incarnera plus tard. Que pourriez-vous dire de cette personnalité ?
Alors, le Louis XIV de l'enfance, on pourrait le définir par trois adjectifs. Il est timide, il est sérieux et il est secret. Et ça a frappé les contemporains. Alors, il faut aussi expliquer qu'il est né en 1638, il est roi de France en 1643, donc il a 5 ans quand il commence à apparaître en public. Et on est frappé tout d'abord de sa timidité, notamment lors de ce qu'on appelle le lit de justice, c'est la séance solennelle du Parlement de Paris, le premier lit de justice où on annonce la régence d'Anne d'Autriche. Eh bien, il est censé dire une petite phrase pour passer la parole au chancelier et il n'arrive pas à prendre la parole. Alors, petit à petit, il va prendre plus d'assurance, mais tout le monde remarque qu'il est sérieux, que même dans ses jeux, même en privé, il ne rit ou ne sourit pas beaucoup. C'est un tempérament plutôt renfermé au départ, plutôt timide, et les accidents politiques vont confirmer ce tempérament, puisque pendant son adolescence, il va être affronté à cette révolte qu'on appelle la Fronde, qui est une révolte, qui est une guerre civile, et il va traverser des événements particulièrement, qu'on pourrait dire avec le langage d'aujourd'hui, traumatisant pour un enfant ou un adolescent. Il va y garder ce tempérament du secret et de la réserve qui est une façon de se protéger.
Vous le dites, Thierry Sarment, ce roi soleil est timide, sérieux, secret. Alors à quel moment le roi commence à changer et à se transformer en roi soleil ?
Alors pour moi, la transformation, elle a lieu en deux temps. Ce sont les deux temps de ce qu'on pourrait appeler la fabrication de Louis XIV. D'abord, dès son enfance, c'est bien Louis XIV étant roi, il est utilisé comme une sorte de mannequin royal. On l'habille avec des vêtements d'une richesse extrême. Quand en 1651 a lieu le lit de justice pour sa majorité, eh bien, il arrive caracolant sur un cheval lui-même couvert d'étoffes d'or. Et à l'époque, on remarque que son habit est tellement couvert de broderies d'or qu'on n'arrive pas à en discerner ni l'étoffe ni la couleur. C'est un roi mannequin qu'on promène pour symboliser la royauté à un moment où la France est dans une minorité, donc où le pouvoir royal est affaibli. Et Anne d'Autriche, sa mère, et le Premier ministre Mazarin promènent Louis XIV comme une sorte de symbole de la royauté. Et puis la vraie naissance du roi soleil, elle vient après la défaite de la Fronde, à partir de 1652 et surtout de 1653, où le roi, d'abord, désormais, est un bel adolescent. Au physique, il est plus impressionnant. Et on commence à le faire apparaître, notamment dans des ballets, où il va jouer le rôle du soleil. C'est le célèbre ballet de 1653, le ballet de la nuit, où il porte le costume de soleil et danse en public. Et petit à petit, on va identifier encore davantage Louis XIV au soleil. Alors, ce n'est pas une invention française, puisque en Espagne, plusieurs dizaines d'années plus tôt, on parlait du roi comme du roi planète. L'identification du roi au soleil, c'est un motif typique des symboles de la Renaissance dans toute l'Europe.
C'est assez beau de constater aussi que ce futur roi soleil advient, grâce aux arts de la scène, au ballet, à son statut, puisqu'il incarne ce fameux roi soleil. Alors, par qui va-t-il se faire aider pour accomplir sa mue et devenir justement ce roi soleil, Thierry Sarment?
Il y a d'abord l'entourage politique, la reine Anne d'Autriche, d'origine espagnole, et le cardinal Mazarin, d'origine italienne, qui ont avec eux la culture de l'Europe baroque. Il faut rappeler que c'est Mazarin qui introduit l'opéra en France. L'opéra est une invention italienne. Et puis, il y aura l'entourage des artistes, qui va se dégager peu à peu, et notamment à partir de 1661, quand Louis XIV commence à gouverner par lui-même. Alors on aura évidemment Lully pour la musique et la danse, Charles Lebrun, le peintre, pour tout ce qui est beaux-arts, arts décoratifs. On aura les architectes Levaux et Mansart pour les bâtiments, et puis le célèbre André Le Nôtre pour les jardins. Toute une équipe artistique qui va entourer Louis XIV pendant parfois plusieurs dizaines d'années.
Thierry Sarment, vous nous dépeignez tout à l'heure la figure du roi soleil enfant qu'on présente comme une sorte de totem finalement. On l'imagine justement jeune homme à l'âge adulte qui va plutôt prendre les rênes de sa nouvelle manière d'être au monde. Est-ce que son style vestimentaire va compenser des manques ou des défauts personnels?
Le style vestimentaire du roi, il est là pour représenter la dignité royale, l'identité royale. Louis XIV, devenu jeune homme, puis homme adulte, puis homme mûr, n'est plus l'enfant ou l'adolescent timide. La timidité, elle est cachée, elle est refoulée, mais il continue à être réservé. Il parle peu, mais juste. Il dissimule en fait ses pensées, toujours pour se protéger et pour ne pas apparaître comme un roi qui serait influencé par son entourage. Au physique, en revanche, ça va être dans un premier temps une sorte de démonstration de faste. Quand on voit les tableaux de la cour des années 1660 et 1670, le roi est toujours remarqué parce que c'est lui qui a la tenue la plus riche, notamment des chapeaux à plumes rouges, des justaucorps, des broderies, toutes les couleurs les plus vives qui désignent le roi comme s'il était un oiseau de paradis au milieu d'un jardin d'Éden. Et puis, alors, il y a évidemment cet accessoire que nous identifions au grand siècle, qui est la perruque. Alors, la perruque que Louis XIV adopte parce qu'il a été victime de fièvre à la fin des années 1650 qui lui ont causé une calvitie précoce. Donc là, la perruque s'impose pour lui, alors qu'au départ, c'était la mode des cheveux longs qui avait prévalu. On peut parler aussi des talons, qui haussent la taille du roi, mais qui haussent aussi la taille de l'ensemble des courtisans. Ces talons qui seront de couleur rouge pendant toute une période, et le terme de talon rouge va désigner pendant très longtemps l'aristocratie française.
Après cette histoire des talons rouges qui incarnent l'aristocratie, allons peut-être un peu plus loin, Thierry Sarment. Dans ses codes, vous dites que Louis XIV va incarner la politique de gloire. Qu'est-ce que ça signifie, cette politique de gloire?
Pour le comprendre, il faut d'abord définir la gloire dans l'acception du XVIIe siècle. La gloire, c'est la bonne opinion qu'on a de soi-même, et si aussi celle que les autres ont de vous. Et quand je dis les autres, c'est à la fois l'opinion, le public et la postérité et ceux qui viendront après nous. Et quand on parle de politique de gloire, il s'agit pour un roi ou pour un État d'aller au-delà de la recherche d'objectifs purement pragmatiques, par exemple la conquête de nouveaux territoires. Il s'agit d'affirmer son prestige par ce qu'on appelle à l'époque de grandes actions. Alors les grandes actions, ça peut être des exploits militaires, qui sont victorieux ou pas. C'est la création d'institutions, c'est la construction de grands bâtiments, c'est la protection des artistes et des savants. Tout ce qui va accroître la réputation auprès des contemporains et de la postérité. Par exemple, Colbert, qui est un des grands promoteurs de cette politique de gloire, écrit Louis XIV, « À défaut des actions éclatantes de la guerre, rien ne marque davantage la grandeur et l'esprit des princes que les bâtiments, et toute la postérité les mesure à l'aune de ces superbes maisons qu'ils ont élevées pendant leur vie. » Voilà. La politique de gloire, c'est cela, c'est de penser à l'image qu'on projettera dans l'avenir, au-delà même de la réputation dans le présent.
Alors, vous faisiez référence justement à Colbert, Thierry Sarment. Si on revient toujours à cette politique de gloire qui est déployée grâce aux manufactures royales que Louis XIV va mettre en place, multiplier, donnant justement le pouvoir à Colbert, qui va créer ce modèle structurel, économique très efficient. Peut-être vous pourriez nous donner quelques grands axes de ces manufactures.
Le premier objectif, il est proprement économique. Il s'agit de produire en France afin de moins recourir aux importations et d'équilibrer la balance commerciale. Quelque chose qui nous est tout à fait présent et sensible, parce que c'est toujours l'objectif de la plupart des grandes nations. Mais au-delà de cet objectif économique, il y a un objectif de prestige. Colbert et Louis XIV souhaitent que la France produise à un haut niveau d'excellence et devienne un modèle pour tout ce qui est le luxe, notamment à l'échelle européenne.
Deux exemples de manufactures qui montrent l'ampleur de ce champ d'action.
Alors, les plus célèbres manufactures créées par et sous Louis XIV et Colbert, ce sont la manufacture des Gobelins et la manufacture de Beauvais. Et ce sont deux établissements qui répondent à des modèles différents. La manufacture des Gobelins, qu'on appelle la manufacture des meubles de la couronne, et la réunion de différents ateliers qui existaient préalablement dans le quartier des Gobelins, sur la rive gauche de la Seine, à Paris. C'est une manufacture d'État et qui produit uniquement pour le roi et la cour. Elle produit toutes sortes d'artefacts, des tapisseries, des meubles qui sont en argent ou en ébénisterie, des sculptures, des tables de pierre dure, des estampes, etc., etc., uniquement pour le roi et la cour. Établissement d'État qui existe toujours, qui est maintenant ce qu'on appelle le mobilier national. Et puis à côté de cet établissement d'État, vous avez des manufactures privées, mais soutenues par l'État, qu'on appelle manufactures royales. Et la plus célèbre, c'est la manufacture de tapisserie de Beauvais, qui est créée en 1664, et qui vend des tapisseries pour un public plus large, un public aristocratique, avec un objectif, pour le coup, de rentabilité commerciale. Et il y aura, sur ce modèle de Beauvais, toutes sortes de manufactures textiles, manufactures de glace, manufactures de fer blanc, manufactures de canons, etc., etc.
Cette politique de gloire infuse tous les domaines, de l'architecture aux accessoires de mode, vous l'avez dit, en passant par aussi l'art de la table. Quelles sont les inspirations, les modèles pour que ça devienne si important, si puissant?
Il y a deux grands modèles dans l'esprit de Louis XIV et de ses ministres, qui sont la Rome antique et l'Italie de la Renaissance et du Baroque. Et en fait, quand on regarde de près, tout ce qui est création française du grand siècle est plus ou moins dérivé de l'Italie de la Renaissance. Les académies, le désir de corriger la langue, viennent de l'Italie florentine. L'opéra vient d'Italie. Versailles est un composé d'emprunts aux palais et aux villas de Rome et de Florence. Lully, l'inventeur de l'opéra français, est un Italien. Et puis, il faut évoquer le célèbre voyage de l'architecte Bernin à Paris en 1665, à l'invitation de Louis XIV et de Colbert. On est au début du règne personnel de Louis XIV, mais on est encore dans l'idée qu'on va chercher des modèles en Italie. Alors, le voyage ne va pas très bien se passer, c'est en fait la fin de l'influence directe italienne, mais l'Italie devient à cette époque une sorte de grand musée que les Français vont visiter pour y chercher leur inspiration.
Ce programme politique, culturel, économique, qui s'ancre dans tous les aspects de la vie, est-ce qu'il va faire florès bien au-delà des frontières françaises, hein, Thierry Sarment?
Tout à fait, parce que les despotes éclairés du XVIIIe siècle sont à bien des égards des héritiers de Louis XIV. Je pense à Pierre le Grand et Catherine II en Russie, à Frédéric le Grand en Prusse, à Marie-Thérèse et Joseph II en Autriche. Tous, ce sont des bâtisseurs, des organisateurs, des législateurs qui sont soucieux d'imposer une image internationale. Napoléon lui-même, qui est le dernier des despotes éclairés, a mis son règne en perspective avec celui de Louis XIV. On l'oublie souvent, Napoléon se jauge au reflet du roi soleil.
Ces reflets du roi soleil dont vous nous parlez, Thierry Sarment, jusqu'à quand perçoit-on les traces de ce qu'on a appelé justement le grand siècle ?
Le grand siècle, par certains aspects, il perdure presque jusqu'à nous, puisque c'est avec lui que le français est devenu la langue de communication internationale et elle a été une langue dominante jusqu'à la première moitié du XXe siècle. Paris a été le centre universel des beaux-arts, de la littérature, de la mode, jusqu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. ces phénomènes de prestige culturel français, ils se sont déroulés continuellement depuis le XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe, XIXe et XXe siècle.
Personnellement, Thierry Sarment, qu'est-ce qui vous a passionné ou qu'est-ce qui vous passionne dans ces recherches autour de Louis XIV? Que révèle sa vision, ses goûts pour vous?
Ce qui m'a passionné, c'est de voir une conception du pouvoir en représentation. Et cette conception un peu théâtrale du pouvoir, parce qu'on disait de Louis XIV, c'est un roi de théâtre, cette conception théâtrale, elle a marqué toute la suite de l'histoire de France, depuis le XVIIe siècle jusqu'à nous. Napoléon Ier, Napoléon III, Charles de Gaulle, ses successeurs présidents de la Ve République, ils ont tous l'idée qu'ils sont des souverains de théâtre qui doivent représenter la France et se représenter au monde, aux yeux de leur nation et aux yeux de la postérité.
Merci pour vos réponses éclairantes, Thierry Sarment. Belle suite à vous.
Merci.